Et bonjour, donc, moi je suis Gilles Toutain, je travaille à l'Observatoire des territoires du CGET, donc pour bien certains des documents qui ont été montrés, je vous remercie. J'avais une question. Oui, voilà, c'est le rapport de l'Observatoire des territoires 2016 sur l'emploi qui est sur notre site. Le précédent était sur la qualité de vie, 2014. J'avais une remarque et une question. Alors, sur les services, parce que j'ai aussi participé aux travaux de l'INSEE, c'est activement sur la définition des paniers et sur la sortie de cette première, qui date de janvier 2016. Et sur cette question de comment ont été constitués les paniers. Les paniers ont été constitués par CGET, l'IAU et l'INSEE, en collaboration. Et bien sûr, vous l'avez dit, à partir de la base permanente des équipements. Cette base permanente des équipements ne recense pas non plus tous les équipements auxquels ont accès les personnes. Et notamment, on a eu beaucoup de difficultés, par exemple, je crois qu'il y avait les crèches dedans, mais ce n'est pas le seul mode de garde, et on n'a pas les autres modes de garde. Donc, du coup, il faut prendre ces résultats quand même un peu avec des pincettes. Hein. Et puis, on est sur du temps de trajet routier, voilà. Donc, ce qui ne présage pas d'une bonne accessibilité au service. C'est-à-dire que même en ville, finalement, on peut avoir de très bons temps d'accès, mais avoir une difficulté d'accès au service parce que le service est saturé. Ou parce que les dégrader pour d'autres questions. Donc l'accessibilité ne se résume pas à ce graphique. Pour le reste, ma question...
je peux commenter un tout petit peu?
Oui, bien sûr,
je peux commenter. Parce que moi, j'ai participé aux travaux d'avant. Ceux qui étaient sur ce qu'on appelait... Comment ça s'appelait déjà? L'inventaire communal des équipements.
Ah oui, 98.
D'accord. Ben, c'était pourri, hein.
Là, oui, c'est un peu mieux. Quoi. Oui, c'est tout à fait mieux. Ah, oui, on a gagné
en suivi régulier des équipements, en solidité de l'information. Parce qu'à l'époque, il y avait des carrés, une épicerie, on allait sur le terrain, on ne voyait pas d'épicerie.
On voyait l'épicerie qui était ouverte.
Ce que je veux dire, c'était une vraie amélioration de l'information. On n'avait pas de distance routière. On faisait des distances. Kilométrique, hein, enfin, j'ai pas le réseau. Donc on avait une mesure de l'accessibilité qui était vraiment beaucoup moins bonne et je trouve qu'on a beaucoup progressé. Et toutes les informations qu'on apprend avec précaution, pas que celle-là, y compris les informations sur la mobilité que je vous ai montrées, c'est du déclaratif. C'est du déclaratif fait sur la base de recensement. Maintenant, c'est même plus sur la base de recensement, c'est sur la base d'enquête elle-même de recensement. C'est-à-dire que c'est une partie de la population seulement qui est enquêtée. Donc voilà, toutes les informations sont à prendre avec des pincettes. Celle-ci peut-être plus que d'autres, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit plus que d'autres. Mais en tout cas, je trouve que ça donne des éléments intéressants de discussion sur l'accès aux services, qui est une question assez fondamentale pour les espaces ruraux.
Clairement, mais on a des éléments pour les espaces ruraux qu'on ne voit pas, par exemple, dans la base permanente des équipements, notamment, je peux prendre la paroisse, les maisons de services au public, qui ne sont pas dans la base permanente d'équipement et qui rendent des services, en fin de compte, d'opérateurs nationaux, tels que Pôle emploi ou les caisses d'assurance nationale. Et ça, on ne voit pas forcément dans la base permanente d'équipement. Voilà. Mais ceci dit, c'est tout à fait, ce que vous dites est tout à fait juste. On a beaucoup progressé sur la question. Sur la question du rural, nous on est très embêtés avec cette question hein, depuis très longtemps, comme l'INSEE d'ailleurs. D'ailleurs, dans nos travaux, vous ne verrez pas ou très peu hein, cette notion apparaître, parce que on a beaucoup de mal à la définir, parce qu'elle n'est pas définie. Alors, ça pour plusieurs raisons, parce qu'elle renvoie, hein, on l'a vu ce matin, à une notion de travail agricole, donc d'activité agricole très forte, ou à une notion de paysage. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a vraiment une interpénétration finalement des espaces, des modes d'habiter et des modes de vivre, hein, le territoire. On pense toujours qu'on pourrait avoir un zonage périurbain, périphérique, périphérique et rural. La réalité, elle est quand même tout autre. C'est-à-dire que ces notions s'interpellent, même la notion d'urbain et de couronne périphérique, on l'a vu avec le zonage en aire urbaine, et vous avez évoqué les travaux d'Eurostat, hein, sur la commission sur cette question, la notion d'urbain et de périphérique n'est pas la même. et entre le périphérique et le rural, on a des difficultés pour définir ce rural. Pourquoi ? Parce que, et vous l'avez bien montré, dans les couronnes périurbaines, on a des paysages, on a une activité agricole, on a de fortes activités agricoles, notamment dans la couronne périphérique de Paris, et des paysages de campagne en définitive. Et donc, on a beaucoup de mal à tracer des limites, à tracer des limites entre ces zonages. Et ma question, elle est finalement, pourquoi parle-t-on encore, à l'heure actuelle, de rural ? Pourquoi ne parle-t-on pas de campagne ? Alors, vous l'avez montré dans la typologie de campagne qu'a fait l'INRA, où le mot rural n'apparaît pas, mais c'est le mot campagne. Le mot rural n'apparaît pas, c'est le mot campagne. Et pourquoi parle-t-on encore finalement de rural, puisqu'on a du mal à l'appréhender, finalement, par des notions statistiques.
Parce que vous pensez qu'avec le terme de campagne, c'est plus facile.
Moi, ce qui m'étonne, non, moi, je ne renvoie pas à une activité agricole. Forcément. On renvoie un cadre.
Ce qui renvoie à une activité agricole, c'est quand on parle d'espace agricole. Mais c'est l'ambiguïté fondamentale qu'il y a dans les têtes, hein, entre rural et agricole. Mais peu importe. Attends, je voudrais juste dire un mot. Alors, ça fait peut-être 35 ans que je suis sur cette question. Et il n'y a pas une intervention où on me dit « mais la notion de rural n'est pas pertinente ». Je réponds « oui, la question de la terminologie rurale n'est pas pertinente ». Mais à l'inverse, ça ne gêne personne de dire « l'urbain ». C'est pas plus facile à délimiter que le rural. Donc pourquoi ça ne gêne personne de dire « urbain » et ça gêne tout le monde de dire « rural » ? Voilà, c'est tout. Je resterai sur cette interrogation. Alors, on peut prendre la question comme on veut. On peut la prendre par les densités, on peut la prendre par la morphologie. On peut dire il n'y a pas de rural, il y a du périurbain et d'autres choses. Il y a de l'isolé. Alors, c'est pas beau, hein, l'isolé. Hein. La commune isolée dans le zonage en aire urbaine, franchement, pendant un temps, c'était le rural profond quand même. Hein. On a évité ça à partir de 96. Voilà. Donc. Je trouve que ça reste quand même une terminologie assez neutre. Celle de campagne, je trouve qu'elle renvoie plutôt à paysan. Je sais, Bertrand dira ce qu'il entend celui de son côté. Donc elle n'est pas plus fun que rural. Voilà. Je pense qu'on peut avoir des débats sémantiques à l'infini là-dessus. On peut tout faire et tout reprendre sur la question de la densité, à partir des grilles de densité, hein, et puis dire on va prendre les quatre classes de densité. Et puis on observera la même chose, et puis, au bout d'un moment, intellectuellement, on dira que ça c'est le rural.
Je posais ma question autrement. Moi je ne sais pas, mais est-ce que ces difficultés se posent dans des pays à l'étranger, notamment en Europe ? C'est une question de la difficulté de définir le rural.
Alors la question se pose partout. Ouais. Je pense que la France a été parmi les premiers pays européens à délimiter le périurbain dans le rural. Avec elle se pose partout avec plus ou moins d'équité. Elle ne se pose pas tout à fait de la même façon aux Pays-Bas, en Belgique, que au fin fond de la Lozère. Voilà. La définition de l'urbain, si vous prenez les cartes de l'urbain de l'époque, hein, et la banane bleue, vous avez de l'urbain partout. Donc elle se pose de la même façon, elle se pose de la même façon aux États-Unis, mais elle se pose pas uniquement dans la délimitation du rural. Si vous prenez l'ensemble des papiers, c'est dans la délimitation entre l'urbain et le rural. C'est vraiment la double question de l'ensemble des espaces qui se pose de la même façon. Donc les Américains, ils ont une catégorisation avec les aires métropolitaines autour des villes qui se ressemblent étrangement au périurbain de la même façon. Sauf qu'ils ont un système de villes qui est un peu différent, hein. Ils ont un habitat continu beaucoup plus marqué que chez nous, et la périurbanisation est plus récente. C'est-à-dire que l'étalement, ils ont un étalement urbain par recul des frontières de la ville, beaucoup plus marqué que chez nous, et pas d'espace limité entre agricole et résidentiel. Ils l'ont beaucoup plus tardivement, alors que une des caractéristiques de la France, c'est celle-là. C'est d'avoir un espace limité depuis très longtemps. Et qui se maintient, qui se perdure, ces communes qui commencent à être colonisées par l'urbanisation ne sont pas absorbés progressivement par les villes. Alors qu'ailleurs, c'est plus sûr.
Oui, je voudrais ajouter un point sur cette question de l'emploi ou non du terme rural. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné, c'est, je ne saurais pas le dater, mais je pense que ça date peut-être 5-7 ans, c'est l'émergence dans le discours politique du terme de ruralité, qui est un terme qui n'existait pas. La ruralité, et il y a même l'hyper-ruralité, oui, tu as raison, mais ce terme de ruralité n'existait pas. On disait les espaces ruraux pour faire vite. Il y a 50 ans, on parlait des sociétés rurales, et on est passé des sociétés rurales aux espaces ruraux, ou au rural, tout simplement. On voit bien là-dessus les géographes, les sociologues, enfin, ont beaucoup hésité. Et a émergé dans le discours politique la ruralité, qui a émergé dans la foulée des mouvements nature, chasse, pêche, tradition. Donc, comme une revendication identitaire, très, très forte, très, très, très appuyée. Avec le discours, un discours convenu qui l'accompagnait sur l'abandon. C'est-à-dire qu'on abandonnait, et quand même, notamment, ça m'a beaucoup frappé au moment de la campagne, la campagne Hollande-Sarkozy, et puis la campagne précédente, il y a eu tout un volet autour la ruralité abandonnée. Et ce discours-là, des arrière-pensées qui avaient plein de choses, a eu des conséquences, parce qu'il a fallu quand même essayer d'aller y voir. Voilà, d'où d'ailleurs des travaux qui sortent en ce moment, qui sont tout à fait intéressants. Mais je trouve que c'est un exemple assez intéressant de d'interpénétration, et ça donne à penser, parce que je pense que ça existe dans bien d'autres domaines sans que ce soit clarifié. Là, c'est évident, parce qu'il y a eu un terme pour porter ça, ce terme de ruralité, et qui a fait surgir, c'est comme le politique et la revendication, une revendication politique, un sentiment d'abandon et tout ce qui va avec, qui a finalement fait surgir une demande de clarification conceptuelle, même si elle était à l'œuvre autrement, mais ça rebondit autour de ça. Oui,
c'est...
Allez-y.
Vous avez évalué une vingtaine de millions entre les communes ou les zones denses, peu denses et très peu denses. Est-ce que c'est proportionnel ici dans d'autres pays européens? C'est la première question, parce que c'est quand même une part importante de la population française, pour le coup. Et c'est peut-être moins le débat sur la ruralité qui a émergé. C'est l'analyse que je me permets de faire, que le sentiment à un moment donné d'être dans une seconde zone et de ne pas avoir accès aux mêmes services, ou d'avoir vu des services périclités. Et puis j'ai une deuxième question, c'est la prise en compte du numérique sur lequel vous avez dit mot, et qui modifie peut-être un certain nombre de paramètres, et là je le dis de manière tout à fait ouverte.
Donc c'est vrai que c'est pas l'exception française, on peut le dire tout à fait comme ça, hein. Vous prenez la Suède, ils ont aussi des espaces encore moins denses que nous, ou certaines régions des États-Unis. Mais en Europe, c'est quand même une particularité française d'avoir ce que je disais tout à l'heure, hein, l'INSEE a été obligé d'inventer une catégorie supplémentaire dans les catégories européennes, pour gérer des espaces très peu denses.
Je parlais de proportion de population, hein, c'est-à-dire que c'est moins les espaces
tendance
que la.
Oui. Mais en fait, on l'appelle comme on veut, pour revenir sur le rural. Hein. On l'appelle rural, espace peu dense. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve important, c'est d'avoir en tête la logique de localisation des activités et des populations qui différencie les types d'espaces et derrière des types de modes de vie et des types de problématiques. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Et la France se caractérise par ces espaces très peu denses qui ont effectivement des problématiques particulières. Alors, je ne sais pas si c'est là que se concentrent les perceptions les plus reléguées, les plus exclues. Et c'est pas impossible qu'il y ait de ça, c'est un peu ce que vous disiez. Mais en tout cas, je pense que d'un point de vue analytique, on se doit d'avoir. Je ne veux pas rentrer uniquement par l'espace est homogène. L'espace n'est pas homogène, on l'appelle comme on veut. mais il y a une différenciation forte. Et derrière cette différenciation forte de logique de localisation des activités et de dynamique des activités, il y a des problématiques politiques très différentes. Alors sur la question du numérique, un, j'y connais rien.
Je reste sur ma fin sur la question que j'essaye de poser. Est-ce que dans la part de 19 Français, 19 millions sur 20 millions sur 60, ça fait. Allez, je vous laisse faire le calcul. Est-ce que c'est les mêmes proportions?
Non.
En Allemagne, non. En Angleterre, non. Est-ce que s'il y a pas un poids particulier?
Excusez-moi, j'avais pas été au bout de. J'avais pas écouté la question jusqu'au bout.
Ça me permet quand même de faire le lien avec ce que je disais ce matin, si vous voulez, c'est que. Ce que je vous disais ce matin n'est pas seulement une butte témoin et un discours historique, c'est-à-dire que cette longue construction a de quoi continuer à s'alimenter, parce qu'effectivement la proportion, et c'est probablement là que le terme de ruralité prend le relais de ce que je disais, et sur un phénomène dont certains s'emparent comme d'un phénomène identitaire, qui est assez spécifique, effectivement, de la société française.
Alors, sur le numérique, on peut le voir de deux façons différentes. Hein. On peut le voir soit une fracture numérique, je suis désolé, je t'envoie des termes qu'il ne faut plus utiliser dans le RAM. Donc on peut le voir parce qu'il y a des couvertures qui sont plus ou moins bonnes, et c'est toutes les problématiques de haut débit, etc. Et puis on peut le voir aussi, ce qui est souvent dans les débats, sur ça va délocaliser les emplois et ça va faire du télétravail de partout, quoi. Alors, sur la première question, je ne sais pas si ça produit une véritable fracture numérique. Il semblerait que oui, puisqu'il y a beaucoup de préoccupations de l'ensemble des collectivités sur relier au maximum le territoire. Et ça devient une problématique, j'allais dire, de desserte de services publics, en fait. Ça devient une problématique de biens publics. Et donc, du coup, d'équité territoriale, au même titre que de l'ensemble des services publics. Sur l'autre question... Alors c'est un peu comme la chute de la périurbanisation. Ça fait depuis que j'ai commencé ma carrière qu'on dit avec le télétravail on va relocaliser l'ensemble des emplois. Peut-être, je ne sais pas. Mais ce que je constate, et c'est ce que disent les économistes, c'est le besoin de contact professionnel, face à face, augmente avec le numérique. De la même façon que les contacts face à face ont augmenté avec l'invention du téléphone. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas des phénomènes de substitution, ce n'est pas des technologies de substitution, ce sont des technologies complémentaires. Et donc, on augmente le temps de réunion, peu importe. Mais du coup, ça a plutôt tendance à ne pas modifier les logiques de concentration des emplois.
Oui, pardon, derrière. Oui, monsieur, au fond.
Xavier Claire, EDF. Il y a dans votre volonté de démontrer les critères de dynamique et de localisation un élément qui me semble qu'il est absent. C'est-à-dire que vous présentez des stratégies de choix. Moi, j'aimerais qu'on évoque les stratégies de non-choix, les stratégies subies, mais en particulier un des critères qui me semble manquer, c'est celui du coût du logement, qui fait que avec la dimension en toi, le choix du logement se fait à un croisement que vous avez évoqué, c'est-à-dire la distance domicile-travail, mais aussi un prix du mètre carré, que ce soit en location ou en accession, qui n'est pas présent, une qualité du bâti qui va être diverse en raison de l'âge du bâti existant. Et ce qu'on peut voir par exemple en Île-de-France, c'est que le phénomène de foyers qui ont deux voitures, vivant lointain de Seine-et-Marne, dans un bâti ancien, très dégradé, avec des coûts très importants en matière énergétique, à la fois pour le transport, pour le chauffage, pour tous les usages, vient un petit peu mettre les territoires dits, entre guillemets, ruraux, dans une situation très défavorable, mais que les populations sont contraintes d'aller. Tout comme on évoque les évolutions avec l'amélioration du bâti en zone plus dense en Seine-Saint-Denis, le départ des populations les plus fragiles vers le Val-d'Oise, et des mouvements comme ça d'éloignement des populations. Et donc, pas un choix, mais plutôt un non-choix des gens qui ne sont pas en situation de pouvoir rester en cœur de ville, tout simplement, et donc au plus près des paniers de service, qu'on soit junior, actif ou senior.
Ok, c'est mon langage d'économiste qui est mis en cause. Pour un économiste, le choix, c'est un arbitrage avec contrainte. Et ce que vous décrivez comme une situation subie, c'est quand les contraintes dominent les autres termes de l'arbitrage. C'est tout. Mais donc, c'est la faute à ma discipline, qui jargonne beaucoup autour de ça, et qui emploie peut-être à tort et à travers le mot de choix, alors que derrière, c'est bien une optimisation sous contrainte, et les contraintes peuvent dominer l'ensemble des autres termes. Et c'est ça qui est derrière. Sur la question du logement, vous avez peut-être fait la petite sieste à ce moment-là, mais... j'en ai un petit peu parlé quand même quand j'ai parlé de la logique de localisation résidentielle des ménages, et j'ai bien dit, il me semble que c'était au cœur de l'arbitrage. Là où je vous rejoins, c'est que ce que j'ai dit, c'est surtout sur le coût du logement. Je n'ai parlé que du coût, et du coût relatif du logement et du transport, pour expliquer les phénomènes de pré-réalisation. C'est vrai que vous avez raison d'insister sur l'autre dimension, qui est celle de la qualité du logement, qui est une composante essentielle aujourd'hui, de plus en plus essentielle, dans les logements. Mais un bon économiste, la qualité du logement, elle se trouve dans les prix. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne parle que du coût. Mais je trouve que c'est important de bien dire... Alors, on pourrait rajouter, si vous prenez ce qu'on avait fait en 98, on pourrait en mettre à jour, on avait fait tout un travail sur les caractéristiques du logement entre urbain et rural, justement, qui était très éclairant sur les qualités et les dégâts. Enfin, à la fois la dégradation d'un certain type d'habitat en ville et les caractéristiques très vétustes d'un certain type d'habitat dans du rural le plus éloigné. Et d'un côté, c'était plutôt des espaces de logement vacants, alors que de l'autre côté, c'était des espaces habités.
Madame, juste rebondir. Pardon. Je rebondis du coup sur
le sujet.
Sur les raisons du choix, les raisons et les bases des périodisations des années 60, un élément que vous n'avez pas évoqué, c'est juste un complément, à mon sens, c'est la question de la qualité de vie en ville, que vous évoquez pas, vous parlez uniquement de la qualité de l'habitat, du prix de l'habitat, mais depuis les années 60, avec le tout voiture, la question de la qualité de l'air, du bruit, de la sécurité publique, etc., en ville, s'est massivement dégradée. Et c'était une des raisons de cette périurbanisation massive, plutôt, à mon sens, des populations favorisées, et non pas défavorisées, parce que pas une banlieue, c'est une jardin, et les coûts de transport, etc., même s'ils ont explosé avec l'augmentation du coût du pétrole, et plutôt à destination du cadre, et que du coup, aujourd'hui, les grandes villes, les grandes métropoles, essaient justement de remettre de la qualité urbaine, avec des fortes externalités positives, et minimiser les externalités négatives, pour refaire venir du cadre, et, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, les villes et les cœurs de ville concentrent plutôt justement les frais de journée, parce que les gens les plus pauvres n'ont pas pu aller dans les espaces de l'Europe.
J'ai cité rapidement la question aménité urbaine versus aménité rurale dans les choix de localisation. Ceci dit, alors je suis convaincu de ce que vous dites sur le choix, là c'est un vrai choix, c'est pas celui d'aller rechercher les aménités rurales, mais qui sont liées en fait à l'habitat individuel et au jardin. Maintenant, c'est dans cette logique-là en fait que se construisent l'attraction ou l'attractivité des aménités rurales. Les aménités urbaines, elles sont toujours jouées. Elles se sont requalifiées très fortement par la gentrification des centres-villes plus récentes, mais elles ont toujours joué sur une frange importante de la population très riche, qui est attirée par l'opéra ou par ce genre de choses, qui sont les aménités urbaines. Donc l'enjeu, il est très compliqué. Et je vous passerai un papier de Bruckner sur pourquoi il y a une inversion entre les États-Unis et la France, la localisation des riches et des pauvres entre le centre et la périphérie, qui explique ça et qui est justement ce jeu du poids relatif dans les préférences entre aménité rurale et aménité urbaine.
Oui, non, moi c'était ça. J'aurais aimé revenir au dernier graphique en fait, que vous avez passé assez rapidement dans son analyse. Parce que j'avais l'impression de comprendre que du coup les campagnes, enfin les espaces ruraux, les moins dynamiques étaient plutôt dans la partie sud du pays, c'est comme ça qu'on le lit, enfin sous la Loire, et les ruraux un peu plus irrigués économiquement au nord. 5 minutes pour commenter.
Alors, vous faites l'interprétation que le vert et le bleu, est bizarre, hein. C'est un bleu d'Altonien, ça. Et le bleu sont plutôt en dégradation et le jaune est plutôt en positif.
Non.
Parce que le jaune des campagnes agricoles et industrielles, c'est quand même une grosse partie du rural en difficulté. Hein.
Il est au nord de la Loire. Et dans le vert, il y a à la fois des espaces à très faible revenu sans activité touristique et des espaces très peu denses avec faible revenu et activité touristique. Donc il y a un peu les deux. Alors pourquoi touristique et faible revenu? En fait, il y a un travail qui a été fait par des collègues sur les emplois présentiels et qui ont regardé en fait sur la toutes les caractéristiques des emplois présentiels, les entreprises, la taille des entreprises, et qui a regardé jusqu'au salaire. Dans les emplois présentiels en milieu rural, les plus bas salaires sont dans le tourisme, avec un écart d'un tiers en moins que la dernière catégorie qui sont les services aux populations. Donc, les emplois touristiques, c'est bien des très faibles revenus. Et dans ces zones touristiques, ce sont des zones où les revenus, notamment liés au tourisme, sont relativement faibles. Donc, c'est pas étonnant de les retrouver dans la catégorie.
C'est pas vrai pour la Savoie, quand même.
Savoie, là. Enfin, on peut pas rentrer. Oui, c'est ça.
Revenu des ménages.
Parce que.
Le
Savoyard rural. Pas trop mal, quoi. Il va mieux que l'Ariégeois. Et il est pourtant dans le bleu. Mais bon.
Il y a une différence.
Oui. Non, on va pas chivoter, quoi.
Ceci dit, ayez quand même en tête que le résident de Chamonix, ne peut pas se loger. Hein.
Ouais.
Il ne peut pas se loger, le résident de Chamonix. Parce que les prix du foncier ont explosé. Ouais. Et il est obligé d'aller habiter ailleurs, dans la vallée plus bas, ouais. À Salanches ou autre. Et les revenus qui tirent de passer la perche aux gens qui font du ski de moins, ne lui permettent pas ils sont bien sur des faibles revenus, d'autant plus qu'ils sont dans des zones où les pressions foncières sont énormes. Là où on est en industrie touristique.
Sandra.
Je poursuis sur cette carte, en fait, parce que je reste un peu sur ma faim par rapport à la dichotomie. Emploi présentiel, emploi non présentiel que vous nous avez présenté. Incidemment, ça fait penser à la conférence inaugurale qu'on a eue où c'est Claude Algéraud qui venait nous parler autour de sa distinction entre emploi nomade et emploi non nomade. C'est quand même des caractéristiques qui se regroupent très largement. Et finalement, à travers ce qu'on disait, on avait l'impression que, les emplois non nomades, les emplois présentiels, c'est bien, ça fait le fond de l'activité d'une région, mais ce qui fait la dynamique de la croissance d'un pays, c'est la capacité d'attirer des emplois nomades, donc des emplois d'activité non présentielle. Or, à travers cette dominante agricole et industrielle, les espaces ruraux semblent avoir une capacité d'attraction d'emplois non présentiels. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est. Et d'autre part, je voudrais essayer de comprendre le lien entre cette carte-là, que je comprends assez mal, en fait, parce que c'est, si je comprends bien, les données de 2007, où vous nous dites que les campagnes, donc les campagnes en jaune clair, qui sont des campagnes agricoles et industrielles, donc disons des campagnes non présentiaires qui vivent sur les marchés d'exploitation interne ou externe, mais qui ne produisent pas pour elles-mêmes, sont en difficulté. Or, ça veut dire qu'elles l'étaient déjà en 2007. Donc là, je ne comprends plus trop en fait, le tableau. Et je voudrais que vous rapprochiez voir comment cette carte-là se lit par rapport à celle que vous avez présentée rapidement, qui était très intéressante, qui, je crois que c'était la slide 27, sur les soldes d'emploi. Les soldes emploi-population, c'est-à-dire qui permettaient de caractériser les espaces entre ceux qui créent des emplois et ceux qui... Voilà.
Ah ouais.
Et finalement, est-ce que... Parce que ça nous donne un tout autre visage que la carte précédente.
Ouais, c'est vrai.
Et est-ce que celui-là n'est pas plus... Enfin, comment est-ce qu'on peut lire ces deux cartes en regard l'une de l'autre?
Wow. Alors celle-là est mieux faite puisqu'elle est faite par le CGET. Non, non. L'autre, elle a été faite par l'INRA et d'autres labos de recherche pour la data. Donc elle est moins d'affaires. La principale différence, c'est que là, on est sur un total d'emploi et un total de population. Alors que dans l'autre, ce que l'on recherche, moi, je préfère aucune des deux, en fait. Je sais que je préfère, c'est celle des orientations productives que j'ai présentées au milieu, mais qui n'est pas plus vieille, qu'il faudrait qu'on refasse. En fait, ils ne prennent pas en compte, de façon très claire, les orientations collectives. Ici, elles ne sont pas là, les orientations collectives. C'est des masses globales d'emploi et des masses globales de population, donc ça va ou ça ne va pas. Mais on ne sait pas si le fait d'avoir une décroissance de population et une décroissance d'emploi, c'est catastrophique ou c'est pas catastrophique. On ne sait rien.
En tout cas, c'est mal vécu par les populations et
qui
par
reste.
Les élus.
Qui restent.
Oui, qui restent. Oui, ceux qui restent. Mmh. Non, mais du coup, oui. Non, mais c'est très intéressant parce que le ressenti, pour parler, est extrêmement fort dans le discours. Et si, parce que là, tu donnes peut-être une clé de justement cette émergence du thème de la ruralité, abandonnée. C'est-à-dire que ceux qui restent ont le sentiment que, effectivement, eux sont abandonnés. Et ça, ces zones grisées sont quand même très importantes. Hein. Quand même le centre, les Hauts-de-France, la Bourgogne, enfin bon, ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. Mmh.
Mais là-dedans, moi, ce que je trouve, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais qu'est-ce qui est ressenti? Est-ce que c'est la baisse de l'emploi général? Ou est-ce que c'est la baisse de certaines catégories d'emplois? En gros, le fait que l'agriculture diminue en nombre d'emplois, c'est ça qui explique beaucoup la chute de l'ensemble des emplois en milieu rural. Ouais. Est-ce que c'est ça qui est ressenti comme étant ça va pas très bien dans les territoires? Ou est-ce que c'est au contraire les emplois de type exportateur qui donnent agricole, qui jouent le plus comme marqueur de la dégradation de la position du territoire? Et je pense que c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder un peu plus loin en regardant la dynamique économique et la dynamique sectorielle. C'est pas pour rien que j'ai présenté la carte avec les orientations politiques, en disant bien que derrière la logique, c'est bien la logique de la théorie de la base, où on recherche les secteurs exportateurs et les secteurs résidentiels. Et ce que ça montre quand même, c'est que la spécialisation des territoires ruraux, de beaucoup d'entre eux, est quand même sur le résidentiel, de façon très forte. Et donc, du coup, relier, je sais pas, en tout cas, ce seront des espaces qui seront tirés uniquement par des dynamiques démographiques. Alors que les autres, ils sont en difficulté parce qu'on est en période de crise et que la crise de l'emploi. Et ils sont restés sur l'emploi industriel et ils n'ont pas renouvelé leur secteur d'activité au fur et à mesure qu'il y avait une destruction de leurs emplois industriels. Et la problématique, elle est celle du renouvellement du tissu d'activité économique d'exportation, au sens territorial du terme, pour ces territoires qui étaient déjà des territoires industriels, sur des territoires toujours exportateurs, mais aussi d'activités de type de service. Et c'est cette transformation-là, pour parler à la chute de fer, c'est cette destruction créatrice qui n'est pas faite, mais en tout cas sur laquelle il faut le diriger.
Qui semblerait s'amorcer, d'après ce que vous avez dit ce matin, qui n'est pas là à ce moment-là, mais le délégué général de l'UMM disait qu'il y avait là-dessus des amorces qui étaient tout à fait significatives.
Ouais. Ouais. Alors,
ce qui irait pour le coup directement à l'encontre du discours de Davzy sur le fait qu'effectivement les campagnes vivent principalement d'emplois urbains, de transferts urbains ou d'économie présentielle.
Ben, c'est là que c'est important de différencier. Ouais. En fait, à un moment, j'ai failli mettre comme titre, alors ça va faire référence, j'ai failli mettre comme titre à mon intervention la ruralité, de point quelle ruralité au pluriel, point d'interrogation. Parce qu'en fait, c'est notre tendance homogénéisante qui est embêtante, en fait, y compris dans notre table. Ce qui est clair, c'est que Davzy a raison sur les bassins de vie qui sont totalement résidentiels ou qui ont une économie totalement orientée vers le présentiel. Là-dessus, il a assez raison de dire que c'est des bassins de vie qui sont portés par les services administrés et donc par la redistribution. En revanche, il a tort sur l'ensemble des autres bassins qui ne sont pas petits hein, en nombre, qui sont portés par l'agricole encore ou par l'industriel
ou par le renouvellement de l'industriel. Et là-dessus, c'est sûr que c'est alors, je ne sais pas si c'est des territoires d'avenir, mais c'est des territoires qui ont face à eux des défis qui sont importants et sur lesquels une possible réindustrialisation de notre tissu économique peut être bénéfique pour ces territoires. Mais il faut qu'il s'agisse d'argent à ce moment-là. Après, juste pour faire parenthèse sur regarder que les dynamiques économiques au travers de quelques critères, juste pour faire une parenthèse, il y a un très fort débat dans ma région qui est la Bourgogne-Franche-Comté sur le fait qu'un certain François Langlais a regardé les croissances de PIB par région française et il a pointé sur la Bourgogne-Franche-Comté un doigt tout rouge en disant cette région s'effondre, elle a la plus forte baisse de PIB sur la période récente. Imaginez des lois locales. Ce à quoi les élus ont répondu, ok, mais nous on a un tissu industriel solide et on a le taux de chômage plus faible de toute la région de France. Quel est le bon indicateur?
Oui.
Oui. Si je peux garder la parole une seconde, j'ai une question là pour le coup de décryptage statistique. Je m'interroge je me demande à quoi tient ce seuil de 40% dans la définition des aires urbaines et des communes dans l'affluence d'une aire urbaine, pourquoi est-ce qu'on fixe le seuil à 40% des emplois dépendant du pôle urbain? La couronne périurbaine,
ouais, est définie comme... C'est 40% des emplois de la commune, enfin 40% des actifs résidents dans la commune qui vont travailler au pôle ou à toutes les communes qui se sont agrégées au pôle avant elles. C'est une procédure itérative qui est, je regarde, c'est un arbre de classification automatique qui est derrière. Hein. Toutes les communes sont regardées. Et en fait, à l'époque, encore 94, je participe au travail, le seuil à 40% a été fixé parce que l'arbre de classification se coupait bien à 40%. Tu as donné ce seuil 40%. C'est un arbre de classification et ça mettait bien les différences entre les études. Et c'est un arbre. On le refait aujourd'hui, je suis sûr qu'on ne reprendra pas le même critère à 40%. C'est vraiment le genre d'artefact statistique qui est lié à une date, une méthode, qu'on a classé parce que la classification était belle à ce moment-là, on pouvait couper là sans avoir de biais statistique. Et si on reproduit avec le même seuil, je suis sûr que là, on a trouvé des biais statistiques. Et voilà.
Bien, je propose que... on arrête là le débat. On voit bien la difficulté hein, d'avoir une vision assez univoque sur cette question de la définition, de la différenciation. On est quand même sur des dynamiques et sur une approche multicritère qui fait que il faut forcément croiser ces critères et ces dynamiques. Ce qui rend l'exercice intellectuel assez complexe, hein, reconnaissons-le, et en tout cas son appropriation dans l'opinion, vraiment compliquée. Enfin, c'est vraiment pour rejoindre la question du collègue du Cégep, on est vraiment là en face. C'est un vrai problème, je pense, pour pas seulement pour les élus, enfin pour les habitants et pour la représentation que l'on a de la société française. D'être en face d'un paysage qui s'est considérablement bouleversé, qui est devenu très complexe, et j'ose dire que nous n'avons pas encore trouvé, enfin ce nous est un nous collectif, hein, nous n'avons pas encore trouvé tout à fait les concepts, les notions, les cartes qui permettraient d'appréhender cette complexité autour de 3-4 notions qui permettraient d'y voir clair et qui permettraient d'y projeter des politiques publiques ou des actions publiques ou des modes d'intervention qui soient à la fois différenciés sans être à l'infini. Je pense que cet exposé illustre bien ce bouleversement. Enfin, je pense qu'on est vraiment en face d'une carte qui s'est profondément bouleversée et qui n'a pas fini de se bouleverser. Hein, qui n'est pas du tout stable, sur laquelle il faut continuer de travailler pour arriver à la comprendre. Je crois qu'on arrive à peu près à la comprendre. On a plus de difficultés. difficulté à la nommer qu'à la comprendre. C'est peut-être ça la conclusion que je tirerais de ce débat.